Marceau le matin.
8h55, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On a une grosse prochaine heure pour vous autres. Marc-Antoine Reid, le planificateur financier, va être de passage dans nos studios. On va parler de sport, on va parler d'actualité aussi. On va parler, revenir un peu sur le programme du PEC, Jeff.
OK, oui.
Qui touche les personnes qui sont venues travailler ici, des gens de l'extérieur qui vont devoir remballer leurs affaires puis repartir. J'entendais une entrevue hier. D'une personne qui est venue refaire sa vie ici. Elle a tout abandonné en France, puis elle a décidé de tout racheter ici. Puis là, bon, il dit non, ça fait finalement ça marchait, mais là, finalement, ça marche plus.
Ça marche plus, exactement.
Tu dois vendre toutes tes affaires ici. Elle avait 3 enfants.
Ouais.
Puis, bref, sa vie est un peu scrap. Donc, en espérant que ça change, on va parler de ce fameux programme-là. Il fait beau. La marmotte a vu ou pas son ombre hier?
Ça dépend. Aux États-Unis, elle l'a vu. Au Canada, elle l'a pas vu.
On l'appelait-tu Marc-Antoine Reid?
Oui, la marmotte était Marc-Antoine Reid. Alors, aux États-Unis, on a dit l'hiver va encore durer 6 semaines.
Oui.
Fait que là, Donald Trump a dit le réchauffement climatique, ça n'existe pas.
Oh.
Puis au Canada, on a dit ben le printemps va être hâtif. Alors, est-ce que le Canada et les États-Unis vont avoir des températures différentes?
On y va avec un Go Canada Go, donc espérons que le printemps arrivera le plus rapidement possible. Mais moi, je vais commencer dans les prochains jours à préparer ma moto.
Oui!
J'ai vu ça en 20 semaines dans le garage souterrain chez nous. Les gars commençaient à défaire le morceau, nettoyer leurs affaires. Il y en a même un qui a parti son Harley-Davidson dans le souterrain. Il me demandait ce qui se passait.
C'est ça.
Mais le printemps s'en vient.
Ah oui, puis il y a un bel événement qui s'en vient par rapport à la moto. Ouais.
Exactement, tu lis dans mes pensées.
Voilà.
C'est un événement qui se passe chez nous. Puis c'est en collaboration avec la belle station que vous écoutez présentement, Boulevard 102.1. Et Expo Moto qui vous donne rendez-vous à l'événement moto incontournable. Du 13 au 15 février au Centre de foire de Québec. Donc, ça donne dans Saint-Valentin.
Oui.
Vous pouvez l'amener là-bas. C'est une belle sortie de coupe. Expo Moto Québec, c'est plus de 400 motos neuves et d'occasion qui seront présentées. C'est des conférences exclusives sur la scène XPM. C'est des rencontres avec Michel Barrette, le chum Hugo Girard et Jean-Sébastien Roy. Si vous aimeriez y participer, on a quelque chose pour vous. Vous nous textez maintenant pour courir la chance de gagner votre paire de billets pour la journée de votre choix, expomoto.ca, expomoto.ca pour plus de détails. 418-971-1021, 418-971-1021. Juste à me taper dans le texto Expo Moto pour que je puisse vous retrouver. Puis on va faire un gagnant dans les prochaines minutes. Marc-Antoine Reid, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Planificateur financier AIG Gestion de patrimoine. Tu fais ce métier-là depuis combien de temps?
Ça a 23 ans dans les services financiers là, à travers différents rôles. Là, mais,
un gars qui travaille dans les chiffres puis dans les bureaux.
Oui, bien. On dit ça, c'est vrai que c'est important d'être bon dans les chiffres, là. C'est la base de notre travail, mais je travaille avec les humains, dans le fond. C'est des relations humaines, puis c'est ça qui est motivant.
Oui, puis tu sais, comme tout le monde, tu dois faire face à ça, des gens qui sont stressés par rapport à l'argent.
Ouais, oui,
c'est complexe, puis il y en a qui sont capables de... c'est drôle à dire comme ça, mais il y en a qui sont capables de se déshabiller facilement. Puis il y en a d'autres qui ont de la misère à se déshabiller, Jeff.
Ouais.
Quand tu es chez le notaire, il faut que tu te déshabilles au complet, là. C'est la première fois, tu disais un peu, là. C'est parce que là, lui, il veut tout savoir de ma vie. Il faut que je planifie toutes mes affaires. Puis là, il va savoir qu'est-ce que je veux donner à mes enfants et tout ça. C'est des gens que tu connais pas. Fait que c'est important qu'il y ait des gens comme Marc-Antoine, comme ses associés, qui soient conciliants, tu sais, en se disant, OK, bien, la personne qui est en face de moi veut faire de la planification financière, puis je vois qu'elle est vraiment stressée. Fait que t'as pas le choix d'essayer de trouver des façons, des fois, de déstresser le monde. Puis inquiétez-vous pas, ce que vous me dites, ça sortira jamais de mon cabinet.
Absolument, c'est fascinant, notre travail. Une des choses qui est fascinante, puis qu'on découvre, puis à laquelle on s'adapte, la relation avec l'argent de chaque personne est différente. Souvent, la façon qu'on a vieilli ou qu'on a grandi a une influence sur cette relation-là. Après ça, bon, on fait partie de la vie des gens aussi. On est planificateur, je suis planificateur financier, ça fait que je travaille en fonction des objectifs des gens. Il y a leur vie, beaucoup de confidences. Puis évidemment, bien, on s'occupe de l'angle monétaire, mais on fait partie de la vie la vie des gens, puis on évolue avec eux là, à travers différents événements de leur vie. Ça fait que c'est le fun.
Je parlais avec un comptable fiscaliste, puis il me disait, Jeff, que des fois, monsieur, madame était dans son bureau, puis monsieur voulait pas dire combien il gagnait, madame.
En effet.
Ah oui, c'est ça aussi, c'est parti. J'ai fait les petites cachotteries en couple pour respecter ça. Après ça,
ça arrive
comment
ça?
Les gens divisent leurs dépenses.
Mais c'est pas anecdotique,
à chacun.
Ça?
Non, non, c'est pas anecdotique.
Des gens qui disent, là, moi, je veux pas qu'ils sachent comment je gagne ou je veux pas qu'ils sachent comment je gagne.
Non, il y en a plusieurs. Ça, c'est quand même un petit pourcentage là, quand ça fait longtemps que tu es en couple, mais il y en a d'autres aussi que, sans le dire, je le perçois, tu sais, dans les conversations, mais il y en a aussi qui posent des gestes tout d'un coup que ça ne fonctionnerait plus.
Ouais.
Qui ne sont pas nécessairement optimales pour le couple, mais qui pourraient être mieux si jamais un jour leur cœur bat plus en unisson. Il y a toutes sortes de choses qu'on voit dans nos bureaux, assurément. Puis plusieurs fois par année, des séparations aussi. C'est délicat, là. Il y en a de toutes sortes. Là.
C'est quand tu rencontres le gars, là, il pourrait gagner des concours d'or oratoire. Là, puis là, tout d'un coup, sa blonde est dans le bureau, puis tu lui parles d'argent, puis... Tu lui dis, votre salaire cette année, 81? Pardon? 81?
Moi, je suis dans la marde, par exemple.
Ouais, c'est elle qui signe tes chèques. Hein?
C'est vrai.
Ouais, c'est elle, la comptable. Elle voit le salaire faire ça.
Non, c'est bon.
Ça, tu peux pas y en cacher.
Non. Donc, si je dis, chérie, pas sûr, je suis vraiment une fenêtre, t'es moyen.
Ah oui?
Bon. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle de. Bon, vous savez, c'est la période REER. On a jusqu'au 2 mars pour cotiser, pour que ça soit déductible pour l'année qui est déjà terminée, c'est-à-dire 2025. Je vous apprends rien sur l'année qui est déjà terminée. Mais je voulais aller plus loin puis donner des trucs concrets. Là. Ces trucs-là s'adressent principalement pour ceux qui sont en phase d'accumulation parce que je réserve une petite chronique pour ceux qui sont un petit peu plus proches de la retraite là, aussi dans les prochaines semaines. Fait que des trucs pour faire plus pour les REER puis la retraite. Qui n'aime pas ça quand on propose des idées pour en accomplir plus sans faire plus d'efforts ou juste en étant plus stratégique? Il y en a plusieurs qui sont en ligne avec ça. Fait que je commence avec le premier. Vous êtes prêts?
Oui.
Puis on va essayer de ne pas faire trop sortir souvent la marmotte financière. La marmotte,
ça dépend.
Donc, le premier truc, là, dans le fond, si vous avez une somme disponible puis une bonne source de crédit, mettons une marge de crédit là, avec un taux d'intérêt raisonnable, qu'est-ce que j'encourage parfois les gens à faire? C'est de considérer à l'avance le retour d'impôt qu'ils obtiendraient en bonifiant leur cotisation.
Mm-hmm.
Je vous donne un exemple un petit peu plus concret. Je suis devant un monsieur ou une madame qui a 6 500 $ de disponible pour potentiellement cotiser au REER, puis qui gagne 75 000. Je pourrais prendre en considération à l'avance qu'elle aura un retour d'impôt de 36 % pour sa cotisation REER. Ça fait que je dirais, à la place de cotiser 6 500, prends 3 500 sur ta marge de façon temporaire. On va cotiser 10 000 Dans 2 mois, tu as ton rapport d'impôt, tu vas avoir ton retour d'impôt de 3 600 mm-hmm. puis on va rembourser ta marge.
Ah.
Qu'est-ce que ça fait en faisant ça? On est à l'avance tout le temps, donc l'argent fructifie plus longtemps, l'effet des intérêts composés arrive plus longtemps. On évite aussi de dépenser le fameux remboursement d'impôt.
Ouais.
Ça, c'est un piège parce que vous vous souvenez, le REER, on a un retour d'impôt, mais on s'achète une facture pour plus tard. Si vous cotisez au REER, vous dépensez le retour d'impôt dans quelque chose qui n'était pas prévu, vous auriez été mieux cotiser au CELI pas avoir la dépense inutile. Fait que ce truc-là permet de faire plus assurément.
Ça nous empêche de se créer des besoins aussi.
Absolument, c'est ça. Puis là, bon, on va voir les sommes. C'est un effet motivateur aussi de voir la progression de ses comptes de placement. Là, un coup que le train est parti, c'est plus facile de l'entretenir. Ça fait que ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, j'ai fait une brève allusion la semaine dernière dans plusieurs cas. Là, pour les puristes, là, je sais qu'il faut prendre compte de plusieurs facteurs, mais d'envisager le prêt REER qui fasse partie de l'écran radar, c'est-à-dire d'emprunter pour cotiser au REER. Les institutions financières, nous aussi, on fait des prêts avec des taux d'intérêt avantageux par rapport à d'autres prêts parce qu'il y a un placement qui est là, il y a un actif qui est là aussi qui rend le prêt plus solide. On prête puis on cotise au REER. Une des façons là, que ça devient facile à faire puis avantageux et plaisant pour la personne, mettons que la personne a un solde d'un prêt de 3 500 $ qui a un taux d'intérêt de 10 % dessus puis qui demande un paiement de 300 $ par mois, on pourrait emprunter 10 000, cotiser au REER. Le retour d'impôt rembourserait au complet le prêt de 3 500 qui a un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le nouveau puis qui coûterait environ 200 $ par mois à place de 300. Ça fait que le 100 $ excédentaire, ben on pourrait aussi le mettre de côté à d'autres objectifs.
Ça arrive-tu qu'il y en a qui... Parce que supposons que tu reçois un coup d'argent. Là,
okay?
On fait des chiffrons, Tu gagnes 100 000, tu reçois 100 000. Ouais. Ça se peut-tu qu'il y en ait qui placent ce 100 000-là en REER, puis ça dit au gouvernement, ben finalement, cette année, tu n'en as pas gagné, ce qui fait en sorte que tu vas avoir tous les chèques qu'on donne aux pauvres et aux familles moyennes.
Absolument.
Hey, c'est... ça,
puis tu sais, dans certains cas, là, encore une fois, il y a plein de facteurs, mais dans certains cas, on peut reprendre de l'argent sur l'hypothèque avec une famille. Puis à ce moment-là, diminuer le revenu imposable assez bas pour qu'il y ait toutes sortes de crédits fiscaux, les crédits sociaux fiscaux. Et il y a des zones de revenus là, pour une famille que si tu diminues le revenu, c'est un équivalent de retour d'impôt de 90 % dans certaines zones. Fait que ça peut être très payant d'aller plus loin que juste le retour d'impôt standard. Par contre, il faut faire attention dans l'exemple que tu as dit, si tu descends le revenu trop bas, il n'y a presque pas d'impôt trop bas. Ça fait que, il faut que ça soit bien simulé, bien calculé là, en simulant le rapport d'impôt à l'avance.
Ben, c'est l'importance d'avoir un planificateur financier.
Exact,
dans sa
exact.
Vie,
ça demande un peu plus de travail, là, le point que tu as dit, mais c'est des belles planifications qu'on fait de façon assez régulière.
Je comprends que c'est des stratégies financières, puis tout ça, c'est tout à fait légal, mais éthiquement, des fois, moi, j'ai un problème. Tu sais, je vais recevoir de l'argent de la solidarité, puis je vais me mettre ça dans mes poches parce que j'ai réussi à me placer un 100 000 de côté dans mes REER.
Ouais.
Je trouve ça...
Mais tu sais, en même temps, le gouvernement, il met tous ces programmes-là. Là, c'est sûr qu'on aligne plusieurs
règles. Peut-être un gauchiste.
T'es sûrement un gauchiste.
C'est sûr qu'on aligne plusieurs règles ensemble. Mais le gouvernement met ces règles-là, c'est des incitatifs. Ils veulent... Tu sais, le régime marché d'épargne études, c'est payant. Ouais. Mais ils veulent que les gens préparent les études postsecondaires des gens. Ça fait que là, c'est sûr qu'on en aligne plusieurs. On profite... d'alignement de règles, mais ils sont au courant. T'sais, si jamais ça devenait trop, ils vont changer ces règles-là. C'est juste d'être futé dans certains cas. Puis on pourrait débattre aussi que cette personne-là, qui cette année va avoir ce retour-là, ben, elle va contribuer largement plus que la moyenne dans les autres années. Ça fait que,
c'est comme ça qu'il faut que je me soulage.
Absolument. Si tu te sens vraiment dans cette situation-là.
Non, mais tu comprends que moi, mon objectif, c'est d'en donner le moins possible au gouvernement de façon légale.
On veut tous contribuer, mais raisonnablement.
Mais je peux contribuer à ma façon.
Ouais, c'est ça.
Je peux donner aux gens que je veux. Là.
Tout à fait. Okay?
Ce que j'envoie au gouvernement... c'est le moins possible. Tant aussi longtemps que je vais juger qu'ils font pas la bonne affaire avec mon argent.
Oui, c'est pas toujours parfait, effectivement. Troisième truc, il est relativement simple. J'ai fait allusion à quelques reprises. J'appelle ça, là, c'est un truc pour 2026. T'sais, l'année commence, les REER, c'est tout le temps, en réalité. J'appelle ça « payez-vous en premier ». Puis là, je vais aller plus loin avec le prochain, mais « payez-vous en premier », c'est quoi? À chaque paye, un montant qui sort de votre compte puis qui s'en va en investissement. Vous achetez le marché à des moments, vous vous payez en premier, fort probablement que vous allez réussir à vous arranger avec ce qui reste. Après ça, ben, vous achetez le marché à des moments, à des prix différents aussi. Ça diminue le risque. Fait que ça, c'est un très bon point. Puis là, je vais plus loin avec mon quatrième, qui est un de mes préférés. Je crois que c'est mon préféré, que j'utilise beaucoup. L'investissement périodique, qu'est-ce que je propose aux clients? Je dis, écoute, on sait que ça a de fortes chances d'aller dans le REER, puis c'est pour la retraite, mais je te propose de le faire dans le CELI, ton investissement périodique. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je trouve que c'est un bon truc? Parce que c'est dans le CELI, parce que s'il arrive un imprévu, le client peut me rappeler puis revoir son argent sans conséquence fiscale.
Exact.
Le client est enclin à faire plus. Il va se payer plus en premier. Donc, règle générale, je vais réussir à faire épargner plus à chaque paye, première chose. Deuxièmement, l'histoire démontre que 3 années sur 4, les marchés montent. Qu'est-ce qui va arriver, moi, au mois de janvier, février, quand j'optimise ces choses puis je transfère ça au REER? Trois années sur quatre, il va faire une plus grosse cotisation REER que ce qu'il était capable. Donc, plus d'économie fiscale puis plus de retour d'impôts. Puis, troisième point, s'il y a des changements dans l'année, perte d'emploi et tout ça, je me suis pas commis tout de suite au REER. Je suis sûr d'être optimal dans mes choix entre REER et CELI.
Parce que je pourrais avoir une différence sur mon revenu
c'est
à la fin de l'année.
C'est ça, exact. Là, on peut prévoir que tu gagnes un X montant, que c'est REER all the way
mais
pour toi.
Mais au milieu de l'année,
ça change, là, c'est ça. C'est sûr que là, quelqu'un pourrait argumenter, ben là, même si tu as cotisé au REER, tu peux garder ta déduction pour plus tard, mais c'est plus facile là, avec la méthode. Il y a plein d'avantages avec la méthode que je viens de vous mentionner. La seule désavantage léger, puis ça ne doit pas en être un, c'est du côté du planificateur financier, c'est plus d'ouvrage parce qu'on doit se repencher sur le CELI, pas oublier de faire la cotisation REER, on prend le talon de paye du client, on regarde les tranches d'impôts, mais c'est ça ce qu'on fait pour nos clients à chaque année. Autre point, votre CELI est plein. Vous êtes un bon épargnant, vous êtes arrivé à prendre de bonnes habitudes, peut-être que votre salaire aide un peu aussi. Bien, envisagez de cotiser au REER en début d'année. Les droits que vous avez accumulés l'année dernière là, de cotiser au REER, vous ne les connaissez pas encore de façon formelle parce que vous n'avez pas encore reçu votre avis de cotisation, mais ils sont gagnés. c'est 18% du revenu que vous avez gagné l'année dernière. Fait que vous pouvez, l'argent que vous cotisez maintenant, vous n'êtes pas obligé de la déduire pour l'année qui vient de passer. Vous pouvez la déduire pour l'année qui commence. Fait que si le CELI est plein, on cherche des endroits pour faire du rendement à l'abri de l'impôt. Donc, de cotiser en début d'année, c'est une excellente pratique. Je le fais avec plusieurs de mes clients. Puis, on finalise quand on reçoit l'avis de cotisation. Et deux petits derniers points que je vais élaborer dans les prochaines semaines, sur lesquels je vais élaborer un peu plus. Envisager le REER de conjoint. Donc, si vous êtes avec un conjoint, votre union est solide, particulièrement si vous êtes marié, ça peut être une excellente stratégie. Sans aller trop loin, je vous dis pour qui c'est le plus intéressant. Là, je vais te donner quelques prémices pour que ça soit envisageable. Les gens qui visent une retraite avant 65 ans, particulièrement intéressant le REER de conjoint, puis qu'il y a une disparité dans les revenus. Je vais vous faire une chronique là-dessus uniquement, parce qu'on a plusieurs questions là-dessus. Et le dernier point, qui n'est pas tout à fait un conseil, mais qui est aussi une ouverture pour une prochaine chronique, avez-vous remarqué que je n'ai pas parlé de fonds FTQ et CSN dans
mes
conseils?
C'est vrai!
Mais c'est payant, ça!
C'est payant, mais c'est pas pour tout le monde. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine chronique. Là, j'ai parlé des trucs pour les gens qui sont plus en phase d'accumulation.
C'est ça qu'elle me dire comme la marmotte. C'est payant, mais ça dépend!
FTQ, c'est très intéressant pour les gens qui sont un petit peu plus proches de la retraite.
Ouais.
Puis je vous expliquerai pourquoi.
C'est pas tout le monde
pourquoi.
Qui peut avoir accès à ça. T'es comme un... Il en libère pas de temps par année.
C'est ça, ça dépend d'une année à l'autre, ça varie de leur demande, là, mais effectivement, là, ils sont contingentés depuis un certain temps, puis ouais. La meilleure façon, c'est d'appeler et commencer par virement périodique en début d'année, okay. Si c'est pour vous. Par contre, restez à l'écoute les prochaines semaines pour savoir si c'est une bonne affaire pour vous de commencer à le faire pour l'année qui commence.
Marc-Antoine Reed, hier, je parlais avec une employée de Leclerc Communication, je la nommerai pas, mais est capable de se mettre 25% de l'argent qu'elle reçoit, là. L'impôt est déduit, là. Elle est capable de se mettre 25... C'est une personne qui vit seule, qui n'a pas d'enfant. Elle est capable de se mettre 25% de son salaire dans ses placements. T'évalues à combien le pourcentage de la population qui est capable de faire ça?
C'est pas tant. Pas un gros pourcentage.
Quand elle me dit ça, là, j'ai regretté d'avoir fait des enfants.
Non, c'est ça.
Quoi? T'es capable de te mettre... C'est un gros montant.
Ben ouais, c'est un bon montant. C'est assurément... Dans le fond, quand tu regardes... Les droits REER, c'est 18% du salaire. Quelqu'un qui prendrait l'habitude de commencer d'épargner tôt puis qui ferait les droits, tu sais, qui ferait le maximum de ses droits REER, techniquement, il serait correct pour une retraite normale, tu sais, puis d'arrêter un âge normal, puis de financer, puis garder le même train de vie. Fait que 25%, c'est plus que ça.
Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que la liberté 55 existait encore?
Ben, c'est dur, la liberté. C'est pas pour rien qu'on n'entend plus parler. Parce que la compagnie qui véhiculait ça, elle a changé de nom.
Mais je regardais ça à télé, puis je trouvais. On était jeunes, là. Puis là, ça promettait ta retraite à 55 ans.
Liberté 55.
Pense-y, t'as beaucoup de chance à 65 ans. T'as quand même une bonne proportion de chance de 30 jusqu'à 90 si t'es en bonne santé.
Ah, dis-moi pas ça, des fois, je suis brûlé.
Puis, la moyenne des gens sont pas tant préoccupés par l'épargne, tu sais, dans la première portion de leur vie. Ça fait que, mettons, une moyenne de gens qui commencent à épargner un peu plus significativement à 30 ans, si tu veux arrêter à 55, tu vas épargner une petite proportion de ton salaire pendant 25 ans pour te faire vivre pendant 35 ans, si tu vis jusqu'à 90 ans. Est-ce que c'est réaliste? C'est possible, mais ça va demander beaucoup de sagesse, des efforts puis des bons conseils. Fait que de dire à tout le monde... venez faire affaire chez Liberté 55, quand la population vit plus longtemps. C'était un bon nom, puis c'est évocateur, mais à un moment donné, pour certaines personnes qui arrivaient un petit peu plus tard ou qui n'avaient pas fait tous les efforts au bon moment, ça devenait comme un objectif qui était très irréalisable ou très difficile à atteindre. Pas le choix de changer de nom pour la firme qui s'appelait comme ça.
On en a parlé la semaine dernière, mais des gens qui mettent pas une scène de côté. Il y en a qui ont des problématiques, puis c'est bien correct. Il faut penser à eux autres. Ouais. Comment ça fonctionne quand ils sont plus capables de se loger? C'est la curatelle publique qui prend soin de ces gens-là?
Écoute.
On les envoie dans des loyers à prix modique, à 25% de tes revenus?
Je vais faire mon politicien. Je répondrai pas parfaitement à ta question, mais contrairement à un politicien, je te le dis d'emblée de jeu que je te répondrai pas. Non, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour aider, pour avoir un certain standard minimum. Là. Je pense à la pension de sécurité de vieillesse, c'est le supplément de revenu garanti.
Mais c'est pas suffisant pour un appart à Québec, ça.
Non, c'est sûr que le coût de la vie augmente et tout ça, ça peut être difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est si la personne est dans cette situation-là puis physiquement, elle devient très incapable de travailler. Là, ça, c'est dur. Mais n'empêche que quelqu'un peut être fort utile très longtemps. Il y a des gens, quand je vais chez Rona, moi j'aime bien ça, parler à la personne qui a 70 ans et qui travaille peut-être 25 heures par semaine.
Ça va
je
être
sais
moi,
qu'il y en a,
ça.
Il y en a taponné plus que chose, plus que il y en a réparé plus que moi des choses dans sa ou ses maisons qu'il y a eu tout au long de sa vie. Fait que la personne est utile. Fait que bref, si tu le vois, ça répond pas parfaitement à ta question.
Non, c'est ça. Mais on dirait Max, il avait comme pas de punch à la fin de son histoire.
C'est sûr que je suis plus expert dans la situation des gens qui ont des sous à la retraite.
On peut-tu se pencher là-dessus, pas la semaine prochaine, mais dans tes prochaines chroniques, là, quelqu'un qui a pas ramassé absolument rien, qu'est-ce qui peut lui arriver? Puis quoi faire pour justement ne pas arriver à ce moment-là? Okay. Parce que je pense que c'est la curatelle publique qui prend soin de toi. On t'envoie dans un genre de HLM, puis tu vas vivre là avec un certain montant, puis tu vas finir tes jours là. Mais si t'es en santé, tu dois trouver le temps long. Là.
Écoute, je vais faire les vérifications pour parler au mois de mars. Je pense pas. Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est... T'as le chèque le premier du mois, là. Puis
tu te débrouilles avec ça?
Ouais, c'est ça. Puis là, t'as les HLM aussi. T'as différentes options, mais je pense pas que la société les prend en charge. Mais
parce qu'il va falloir...
Je pense pas que personne m'en veuille non plus de pas avoir... Je vais vérifier d'avoir la réponse complète parce que j'influence les gens à poser à ce que ça...
Arrive pas.
Ça arrive pas. Puis je travaille principalement avec des gens qui ont... soit qu'ils sont en bonne voie d'eux ou qui bâtissent les choses. Mais je vais faire la vérification, c'est un bon sujet aussi.
Mais c'est important de conscientiser les gens. Mais parce qu'on va avoir une vague de ces gens-là qui sont extrêmement pauvres.
Mais l'écart se creuse. Le coût de la vie est plus élevé. Puis ça, je le dis souvent aux clients, il y a vraiment ceux qui ont réussi à construire de l'actif. Mettons que tu as une maison.
Oui.
Puis tu la payes, tu es content parce que ta maison prend pas mal de valeur depuis plusieurs années. Mettons que tu as des placements, tu es content parce que tes placements, si tu fais les bonnes choses, ils prennent pas mal de valeur.
Ouais.
C'est de partir tout ça et de plus en plus difficile. La coche entre je suis capable de le faire un peu puis de partir la roue. Là,
c'est ça.
Puis la coche, non, j'arrive pas, est plus élevée. Donc la classe moyenne à s'effrite, ceux qui ont de l'actif sont de plus en plus aisés.
Ouais.
Puis ceux qui n'arrivent pas à partir la route, on voit comment c'est dur d'acheter une première maison. Mais là, c'est plus difficile d'entrer dans... Fait que ça va demander... Je trouve que moi, personnellement, je pense des chroniques comme celles que vous me permettez de faire avec vous. Mm-hmm. Puis c'est bon pour sensibiliser, pour poser les bons gestes. Fais tout ce que tu peux pour partir ce cercle-là, d'être sur celui qui a des actifs productifs de revenus éventuellement qui vont t'amener à l'indépendance. Puis là, après ça va s'accélérer.
C'est de monter ton setup pour que le stress diminue au maximum, rendu à 60, 65, 70. Puis que ton seul stress qui existe, c'est tes enfants puis tes petits-enfants.
Ouais, puis d'avoir, d'avoir une certaine liberté de décision aussi. C'est l'indépendance de décision, pour moi, c'est toujours ce qui a valu le plus cher. De dire, si tu n'es plus bien dans une situation, mettons, pour X raisons, vous allez avoir du fun, vous avez un bon employeur, tout ça. Mais mettons que tu n'es plus bien ici puis tu ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. Si tu as les moyens de dire, écoute, faut que j'arrête, sans connaître parfaitement c'est quoi la prochaine étape, c'est une indépendance que tu as construite. Si tu es paye par paye, tu peux pas faire ça. Là. Tu peux rester longtemps dans une mauvaise situation qui peut engendrer d'autres choses.
Marc-Antoine Reed, planificateur financier pour IG Gestion de patrimoine. On te rejoint de quelle façon?
Facile à rejoindre. Un numéro qui illustre bien ce qu'on fait comme travail, c'est-à-dire des plans financiers. 1-833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Reed RED ou est-ce que vous pouvez prendre contact avec nous ou réécouter les chroniques sur votre site.
Je te souhaite une belle journée, mon ami.
Hey, bonne journée.
Bye bye.
Salut. Marceau le matin. Marceau.